l'invité du jour.
7h45, l'heure de l'invité du jour. On va parler de cette journée nationale du sommeil. C'est aujourd'hui, et pour en parler ce matin dans nos locaux, le docteur Jean-Pierre Escaillas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue au centre hospitalier de Montluçon. Vous êtes l'un des membres de l'unité sommeil du centre hospitalier. Déjà, nous expliquer comment on traite la problématique du sommeil au centre hospitalier. Il y a une unité dédiée, en fait, c'est ça?
Nous avons une unité dédiée. Nous avons, en fait, une consultation et deux chambres d'enregistrement du sommeil.
Alors, les personnes qui viennent vous voir souffrent évidemment de troubles, généralement.
Tout à fait, oui.
Comment elles atterrissent dans votre bureau? Ce sont les médecins traitants qui les orientent?
La plupart du temps, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont... notamment, la problématique essentielle, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui voient des personnes, d'autres personnes dans leur entourage qui sont également appareillées, donc ils viennent également d'elles-mêmes.
D'accord. Vous avez une idée du volume à peu près de personnes qui passent par l'unité sommeil du centre hospitalier de Montluçon chaque année?
Nous faisons à peu près autour de 250 enregistrements par an, plus des enregistrements ambulatoires, c'est-à-dire qu'on peut également enregistrer les patients la nuit chez eux, surtout sur la problématique respiratoire de l'apnée du sommeil.
Bon. On peut rappeler, alors c'est peut-être basique, ma question peut paraître bête, mais en quoi le sommeil est très très important pour la qualité de vie et pour la santé d'une manière générale?
Ben, on ne peut pas vivre sans sommeil, on ne peut pas vivre sans dormir.
C'est vrai.
Le sommeil est essentiel parce que le cerveau a besoin de repos. Si vous supprimez le sommeil à n'importe quelle personne, vous le faites mourir. Un chat à qui on supprime le sommeil, Dieu sait si le chat dort à peu près 18 heures par jour, le chat meurt en 3 jours. Donc c'est essentiel, il assure des fonctions de régulation, des fonctions également sur la mémoire, sur les régulations hormonales, endocriniennes, voilà, beaucoup de choses.
D'où donc la nécessité d'avoir un bon sommeil. Ouais. Globalement, les gens qui viennent vous voir, quels sont leurs symptômes, quelles sont leurs problématiques finalement?
Il y a deux problématiques, c'est soit l'insomnie, les gens qui n'arrivent pas à dormir, qui n'arrivent pas à s'endormir ou qui vont se réveiller la nuit, soit l'hypersomnie, c'est-à-dire les gens qui dorment trop, qui vont être somnolents dans la journée, et donc qui vont s'endormir avec tous les risques que ça peut aussi engendrer, non seulement en raison du caractère désagréable que procure la somnolence, mais également les risques que ça fait courir pour eux-mêmes et pour la société.
Quelle prise en charge du coup pour ces personnes-là qui arrivent? Comment vous organisez pour les prendre en charge?
Bon, en principe, on prévoit habituellement une consultation médicale déjà avant. Il faut un bon interrogatoire, un examen clinique. Et puis après, on programme un enregistrement. Donc un enregistrement du sommeil, soit à domicile, soit en hospitalisation, une hospitalisation courte d'une nuit. Les gens viennent le soir et repartent le lendemain matin.
L'enregistrement, quel facteur on prend en compte?
Alors, l'enregistrement dans une chambre de sommeil, on enregistre l'électroencéphalogramme, on enregistre l'activité musculaire, on enregistre également les mouvements oculaires, parce que ça c'est essentiel pour déterminer les différents stades de sommeil. On enregistre les mouvements des jambes, éventuellement l'activité musculaire dans les jambes. Voilà, beaucoup de paramètres.
Bon, et généralement, le diagnostic est posé derrière tout cela. Globalement, est-ce qu'il y a des maladies donc qui existent autour du sommeil?
Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la principale maladie, c'est le syndrome d'apnée du sommeil, qui représente 80% des somnolences diurnes. Après, vous avez des maladies plus rares, comme la narcolepsie. Il y a le syndrome des jambes sans repos qui perturbe aussi la qualité du sommeil, les mouvements périodiques, enfin, il y a d'autres pathologies qui peuvent affluer.
Apnée du sommeil, c'est évidemment quelque chose qu'on connaît, mais concrètement, médicalement, ça veut dire quoi?
L'apnée du sommeil, c'est les gens qui... alors, ça, c'est surtout les personnes qui ronflent la nuit et qui... pendant leur nuit, vont s'arrêter de respirer pendant 15-20 secondes, puis reprendre leur respiration et à une fréquence plus ou moins importante. Hein, et ces apnées vont perturber la qualité du sommeil parce qu'elles vont à chaque fois entraîner un micro-réveil et donc alléger le sommeil qui ne va pas être récupérateur, d'où la somnolence dans la journée.
Alors aujourd'hui, donc, c'est la journée nationale du sommeil, avec cette année une thématique particulière. C'est les conséquences, en fait, de dormir seul ou pas. Alors, vaste question. On sait qu'il y a beaucoup de gens, quand même, qui dorment pas seuls. Il y a une vraie conséquence sur la qualité de sommeil.
Il y a à peu près 40% sur les enquêtes qui ont été faites. Il y a 40% des gens qui vivent, qui dorment seuls. Et 60% donc qui dorment en couple. Alors, ce qui est important, c'est que la qualité du sommeil de l'un va dépendre également de la qualité du sommeil de l'autre.
Effectivement, si une personne agitée à côté, ça peut réveiller.
Tout à fait, voilà. Et en plus, on bouge pendant la nuit. On bouge énormément. Les descriptions qui ont été faites, on bouge à peu près 40 à 60 fois par nuit.
Ah, c'est beaucoup.
Tout à fait. Donc, à chaque fois qu'on bouge, on est susceptible de réveiller l'autre, surtout sur dans un lit un peu étroit, avec une literie de mauvaise qualité. Ça va influer de façon importante.
Bon, quels sont les conseils du coup des médecins, des spécialistes? Il faut acheter un lit king size, il faut aller dormir dans le canapé, comment ça se passe?
Tout à fait, la meilleure des solutions, c'est d'avoir un grand lit.
Bien sûr.
Un grand lit avec une bonne literie, si possible également deux matelas séparés, parce que les mouvements vont moins se répercuter sur la personne qui dort à côté de vous.
Bon, en tout cas, c'est la thématique de cette journée du sommeil. On va préciser d'ailleurs que le centre du sommeil est ouvert un petit peu à tous aujourd'hui, on peut venir vous voir.
Tout à fait. Nous aurons un petit stand dans le hall d'accueil de l'hôpital, et puis on peut faire visiter également les chambres d'enregistrement, et puis répondre aux questions des personnes qui viendront.
De 10h à 16h aujourd'hui au centre hospitalier de Montluçon. Il nous reste 3 minutes avec des questions concrètes. Tout simplement, quels conseils vous donneriez là à nos auditeurs qui forcément dorment pas toujours très bien? Quels conseils vous donneriez? Les choses à éviter déjà pour avoir un bon sommeil?
Les choses à éviter, les choses à privilégier surtout, déjà au niveau de l'endormissement, éviter les écrans le soir.
Ah, ça devient de plus en plus compliqué quand même.
Tout à fait, surtout chez les jeunes, chez les adolescents. Donc éviter les écrans qui ont une lumière bleue. La lumière bleue, qui a un spectre bleu, hein, je ne parle pas de lumière bleue, mais un spectre bleu, va entraîner un maintien de l'éveil et donc retarder l'heure d'endormissement. Après, c'est la qualité de la literie, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est important aussi. La température de tout l'environnement en général, la température de la pièce.
C'est quoi la température idéale, autour de 20 degrés?
18 degrés.
18 degrés, c'est bien.
C'est déjà un petit peu beaucoup. Mm-hmm. La lumière, le bruit, tout ce qui va perturber l'environnement et entraîner des réveils ou des micro-réveils va entraîner une mauvaise qualité de sommeil.
L'alimentation aussi, peut-être, les repas du soir?
Éviter les repas trop riches, les prises d'alcool le soir, l'exercice physique également, juste avant d'aller dormir. L'exercice physique est bien, mais pas
c'est un rôle un peu excitant, finalement, le sport.
Oui, parce que ça fait fabriquer de l'adrénaline, et l'adrénaline va perturber le sommeil, l'endormissement.
D'accord. Il y a d'autres choses que vous souhaiteriez divulguer aujourd'hui, en tout cas donner comme conseil? On a fait le tour globalement.
Non, je pense qu'il est important que quand il y a une plainte concernant le sommeil, il ne faut pas hésiter déjà à en parler à son médecin traitant. Ouais. C'est important. Surtout chez les personnes qui ronflent.
Oui, parce que ça peut paraître comme ça un petit peu anodin, un petit peu embrouille de couple, les ronflements, mais il y a une vraie thématique de santé derrière.
Oui, une vraie thématique, parce que ça, d'une part, ça entraîne des difficultés, donc je l'ai dit, de somnolence dans la journée, mais également des risques cardiovasculaires au long cours. Hein. On sait que le syndrome d'apnée du sommeil est un facteur de risque, au même titre que le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol. Le syndrome d'apnée est un facteur de risque important.
Bon, grâce à RJFM et grâce à vous, docteur Escaillès, ce matin, peut-être ce soir, nos auditeurs dormiront un petit peu mieux. Supprimer les écrans, il faut les supprimer combien de temps avant d'aller se coucher?
Une heure avant, à peu près.
Une heure. Ah, ça va être dur hein, pour beaucoup d'entre nous. Ça va être dur pour beaucoup d'entre nous. On rappelle qu'à l'occasion de cette journée nationale du sommeil, eh bien, les médecins de l'unité sommeil du centre hospitalier de Montluçon et les personnels d'une manière générale seront notamment présents dans le hall central du centre hospitalier aujourd'hui pour vous informer. Vous pourrez aller découvrir cette unité sommeil. Merci.
Merci
docteur Jean-Pierre Escaillès, neurologue au centre hospitalier de Montluçon. Et très bonne journée à vous.
Merci. L'invité du jour.